Jules Falguet, vous souhaitiez
Oui,
revenir?
avec plaisir. Ça prolonge un peu ce que a dit Barbara sur la question du caractère. Il me semble, c'est très très intéressant, je pense, de mettre le corps au centre et la matérialité au centre. Et je reviens sur Nicole-Claude Mathieu, donc, parce que quand même, je trouve ça parfois surprenant de l'idée selon laquelle les féministes matérialistes comme Nicole-Claude Mathieu auraient négligé le corps alors qu'elle écrit un livre qui s'appelle L'anatomie politique. Donc, je pense que c'est vraiment central de penser le corps, de penser la matérialité. Mais par contre, il me semble que c'est très relatif, et je reviens un petit peu à des choses qu'on a dites hier, il me semble que c'est très relatif à la race, la classe, notamment, hein, comme autre grand déterminant. Et j'étais frappée, là, juste à l'instant, je me rappelais d'un documentaire que j'ai vu très récemment qui s'appelle L'Aigle et le Condor, qui est un film sur les luttes des femmes autochtones de l'Amérique latine et du Nord, environnementale. Et il y a une femme du Pérou, une femme indienne du Pérou, qui parle de la pollution du pétrole, etc., dans sa communauté. Et la militante également racisée des États-Unis dit: ah oui, alors vous avez eu des conséquences. Elle dit: oui, on a perdu, il y a des gens qui sont morts et tout. Moi-même, j'ai perdu 6 enfants. Il dit ça comme ça, on passe, coupe, plan suivant. Voilà, ça me fait penser à quel point la maternité, c'est quelque chose de très, très, très contextualisé, quoi. Et j'ai aussi été dans un jury de thèse il n'y a pas très longtemps d'une étudiante qui travaillait sur les politiques, justement, de procréation au Guatemala par rapport aux femmes indiennes. Et c'est très intéressant de voir que toute une partie de ces femmes, elles voulaient avoir plutôt plus d'enfants que leur mari parce qu'elles intégraient le fait qu'elles allaient perdre au moins un ou deux ou trois enfants, disons entre 0 et 18 ans, pour des maladies ou bien du fait de la migration. Donc voilà, tout ça, m'amène à penser, et alors j'ai une autre petite remarque et j'ai surtout une question, mais ça m'amène à penser que oui, la maternité elle-même, même si beaucoup de femmes peuvent être amenées à la vivre, elle est complètement relative à beaucoup de choses. Alors, juste une toute petite chose sur la sexuation. Je trouve que c'est très important de montrer à quel point l'adolescence est un moment clé pour les femmes. Je crois que ça, vraiment, ça vaut la peine de creuser. Mais en même temps, je m'interroge sur le fait que, par exemple, toute une partie des violences sexuelles qui constituent et qui conforment le corps des femmes, elles ont lieu bien avant l'adolescence. Toute une partie des violences par inceste, c'est y compris des bébés de 1 an. Pour lesquelles la différence du dimorphisme sexuel n'est pas vraiment très avérée. Donc, je ne sais pas comment on peut réintégrer cette question dans la réflexion. Et voilà. Et surtout, là où j'aurais des questions aussi, c'est sur comment dirais-je, comment incorporer les perspectives, notamment décoloniales. Par exemple, on a tout récemment traduit et publié le texte fondateur de Malia Lugones sur la colonialité du genre. Et elle dit, et finalement en le traduisant progressivement, je comprends de mieux en mieux, et il me semble de mieux en mieux comprendre ce qu'elle essaye de dire à travers le fait, elle dit, alors Malia Lugones, philosophe argentine récemment décédée, elle dit dans cet article de 2008 que selon elle, le moment de la colonisation, donc 1492, hein, du continent américain, c'est le moment de l'imposition du genre. Et elle dit qu'il y a deux genres différents qui sont imposés, le genre lumineux, clair, light, et le genre, la face sombre. Et les femmes racisées, eh bien justement, elles n'ont pas de genre, elles n'ont qu'un sexe, on va dire, elles ne sont que femelles. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est la maternité pour une femelle? Et c'est d'où le fait d'enlever les enfants, d'arracher les enfants aux femmes. Non, puisqu'elles ne sont pas considérées comme des femmes, elles sont considérées comme des femelles. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut... Et comment est-ce que vous abordez peut-être cette différenciation tellement, tellement marquante que le racisme impose selon la place où on est en tant que femme dans les rapports de race? Et juste encore une chose, j'avais été très frappée de lire, je crois que c'était la quatre de couve d'un monde diplôme il y a plusieurs années, qui disait aux États-Unis à l'époque, une recherche avait été menée sur la chirurgie esthétique et en fait apparemment, les femmes qui recouraient le plus et les hommes à la chirurgie esthétique dimorphisante, c'est-à-dire pour exagérer les caractéristiques dites féminines et masculines, c'était les blancs et les blanches. Parce que les femmes blanches doivent être très féminines, justement, du fait de cette logique raciste, alors que les femmes noires, elles sont considérées comme plus ou moins comme des hommes et elles ne sont pas poussés de la même manière à se faire des seins, à se faire des fesses, etc. Donc voilà, peut-être si vous pouvez nous...
Oui, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Alors, on revient à la question qu'on avait soulevée déjà hier du point de vue situé. J'écris, je pense, comme femme occidentale, blanche, cis, mère de famille, de classe bourgeoise, et évidemment que ça produit des effets. Donc, je l'ai dit en passant, en faisant ces deux petites précisions épistémologiques. Le souci qui est le mien, alors d'abord, je dois préciser, j'ai souvent, enfin, peut-être pas assez souvent, justement, utilisé l'adjectif occidental. Je ne peux pas prétendre à me lancer dans une exploration de ce que signifie la corporité féminine dans toutes les sociétés. Donc, ce que j'essaye de creuser, c'est la spécificité du corps féminin occidental pour essayer de comprendre notamment cette bizarrerie et même ce scandale, d'une certaine façon, que constitue la perpétuation de l'objectivation-alignation par-delà le tournant moderne, d'une part, mais aussi par-delà le tournant de la révolution féminine, d'autre part. C'est-à-dire que c'est quand même assez ahurissant, c'est ce dont on prend conscience, je pense, de façon très, très vive aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit les sociétés soi-disant émancipées, c'est-à-dire que c'est quand même un paradoxe inouï que nous avons eu, on a nourri le sentiment que nous étions des femmes émancipées, nous occidentales. Et donc c'est cette condition-là donc évidemment, je connais la démarche et les travaux liés à la notion d'intersectionnalité et décoloniale, mais il y a aussi ce souci que j'ai, et ça c'est bon, on peut en discuter, mais je n'arrive pas à m'autoriser intellectuellement de m'aventurer sur ces terrains pour des raisons de situation. Et j'ai beaucoup de mal à. C'est pas que j'ai beaucoup de mal, c'est que je ne veux pas parler à la place d'eux. Alors, ce que je peux faire simplement, c'est comme je l'ai fait dans mon enquête sur les seins des femmes, c'est être attentive. Donc, j'ai rencontré 40 femmes, et parmi celles-ci, évidemment, il y avait un certain nombre de femmes racisées, il y avait une femme handicapée, une femme trans. Donc j'essaye de rester tout le temps attentive à cette pluralité des facteurs d'oppression et au fait que certaines femmes, évidemment, éprouvent leurs conditions objectivées de façon bien plus intense du fait de la superposition des facteurs de domination. Je peux simplement me contenter de leur donner la parole et de la restituer, mais et puis une fois encore, mon propos, c'est de comprendre ce moment où nous sommes, nous, femmes occidentales, dans ce rapport à notre propre corporité.
Merci, Arginot, tu souhaites...
Oui, pour revenir à la fin de l'intervention portée par la notion de sororité, c'est pareil, je reviens sur le fait, le croisement du féminin et de ses préoccupations avec le fait artistique. Est-ce que, par exemple, ce que nous proposons avec Rituel, d'une certaine façon, avec les artistes femmes portant ces rituels et des rituels qui ont un caractère collectif, même s'ils ne sont pas démonstratifs, parce que ce n'est pas l'enjeu premier, mais c'est un peu l'intention aujourd'hui, et elle reste à poursuivre, et c'est qu'un début pour nous. Comment imaginer cette relation du fait artistique et culturel qui puisse alimenter cette sororité-là? Parce que, au fond, c'est pas... Une fois de plus, là, j'aimerais bien dire aussi que le fait culturel et artistique ne s'oppose pas au fait politique. C'est pas comme ça que c'est envisagé. Et comment justement aller un tout petit peu sur des territoires exploratoires d'expériences comme l'expérience perceptuelle dont on parlait, qui permet à un moment que l'expérience s'incarne et se partage davantage.
Oui. La spécificité de la démarche féministe, qu'elle soit philosophique ou pratique d'une certaine façon, c'est la valorisation de la parole en première personne. C'est-à-dire que moi, en tant que philosophe féministe, j'écris à la première personne. Et c'est une décision vraiment épistémologique que je justifie. Dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ai consacré vraiment beaucoup de pages à explorer cette modalité singulière d'une pensée féministe, d'une pensée féministe, donc qui est généralement le fait de femmes, parce que je trouve que quand les hommes s'y essayent, bref, c'est un autre sujet. je pense à un livre en particulier, mais c'est vraiment pas le sujet. Et donc cette parole en première personne, elle est d'une certaine façon quasiment idéal typique dans la démarche artistique, puisque en général, et on revient à cette, j'ai trouvé très intéressant l'idée du duo, voire même du collectif artistique. En général, l'artiste est seul. C'est l'artiste, même dans l'imaginaire, c'est un individu, une subjectivité éminemment singulière, et éminemment individuelle en quelque sorte. Or, dans les propositions qui sont celles de l'IAC autour de cette notion du rituel, je remarque d'une part qu'il y a des duos, et d'autre part que du fait qu'il s'agisse de propositions qui sont, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes, mais quasi toujours, en tout cas souvent associées à une performance, c'est-à-dire à la nécessité d'une incarnation vivante de l'œuvre, et donc de son partage avec un public, et donc avec ce qui se noue à ce moment-là, donc en fait, qui permet à l'artiste, quand ils sont individués, en fait, de s'extraire de cette singularité individuelle pour passer au stade du partage par l'incarnation. Enfin, il y a quelque chose qui se cristallise là, qui me semble très, très intéressante et qui renvoie à ces pratiques féministes originelles, si je puis dire, fondatrices, qui consistent à donc, les fameux cercles de parole dans lesquels il s'agit de dire je, et non plus que de dire je, c'est même de raconter les choses en première personne et des choses très intimes qui deviennent, donc c'est une impression qui est peut-être, je ne sais pas si vous l'avez noté au passage, mais des collages des récits individuels, et c'est ce collage qui forme en fait une œuvre collective et qui rend possible une action collective. Je pense qu'on peut faire des parallèles intéressants entre ces pratiques féministes originales, même fondatrices, et ces pratiques artistiques que vous avez développées ici.